RCF.
Bonjour, je m'appelle Michel Picard, je suis journaliste depuis une bonne vingtaine d'années et depuis quelques mois rédacteur en chef ici à RCF Hauts-de-France.
Bonjour Michel.
Bonjour Patrice.
Eh bien, écoutez, ravi de passer un petit moment avec vous dans notre émission Le Tour de la Question. Alors, vous le savez bien, mais aller à la rencontre des personnes qui font rayonner notre région Hauts-de-France, c'est bien le propos de cette émission Le Tour de la Question. Et vous-même, ben, en tant que rédacteur en chef, ben, vous êtes une des figures de la région, qui fête la région. Alors, vous vous êtes prêté au jeu de nos échanges. Alors, vous allez vous laisser conduire par les questions que vous voyez dans cette boîte à questions. Et je vous rassure, s'il y en a qui vous embarrassent, eh bien, vous avez le droit à un joker. Je sais que vous êtes plutôt habitué à poser des questions, mais là, vous allez
c'est
plutôt...
C'est exactement ce que je m'apprêtais à vous préciser, c'est que ça fait des années et des années que je pose des questions et jamais je n'y réponds ou très peu. Et donc, je suis pas sûr d'être très bon dans cet exercice, mais on va essayer.
Eh bien, vous allez faire une belle expérience en répondant à nos questions. Alors, vous parlez de ces nombreuses années, effectivement, cela fait 20 ans que vous faites du journalisme, et on peut dire que vous en avez vu du paysage, hein. Vous avez pendant 10 ans couvert l'actualité nationale et internationale au sein de notre grande radio RCF, mais nationale.
Qui a été une très bonne école, je dois le dire, une très très bonne école de journalisme, parce qu'à RCF, non seulement il y a évidemment des gens qui passent beaucoup. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'avec le recul, là, donc ça fait plus de 20 ans que j'étais rentré à RCF, j'ai au moins une vingtaine de bons copains de l'époque qui sont désormais soit présentateurs à France 3, soit présentateurs à RTL. Et, enfin, c'est une école non seulement d'apprentissage, mais aussi c'est un carrefour où les gens passent. RCF, on donne le micro, on pousse les jeunes, on les aide et ça ne s'oublie pas. Personne n'oublie RCF quand il y est passé, quoi.
D'ailleurs, vous y êtes revenu, on va y revenir d'ailleurs. Et donc après ces 20 ans, ces 10 ans pardon, à RCF, hein, vous êtes devenu correspondant pour Radio France Internationale et d'autres médias. Hein. Et là, vous avez passé quelques années à Chypre, au Pakistan, en Tunisie. Et avant de revenir, et là pour cette nouvelle étape, dans un autre endroit du monde qui est les Hauts-de-France. Et cela fait quelques mois que vous êtes dans les Hauts-de-France.
C'est ça, je suis arrivé, j'ai pris ici mes fonctions en mars, mais vous avez raison de dire que c'est une nouvelle étape parce que je suis encore, mais on va peut-être y revenir, je suis encore dans une étape d'expatriation. Pour moi, je découvre encore ce que c'est la France après y avoir été loin pendant des années.
Alors effectivement, vous en avez vu du paysage en tant que journaliste. Hein, j'ai envie de vous demander... Michel, quel est l'événement que vous avez couvert et qui vous a le plus marqué ou remué, si vous pensez à un événement?
Alors, il y en a plusieurs, par exemple, alors ça me vient comme ça, mais là, quand je vois Joe Biden, président des États-Unis, il était venu à Chypre quand j'étais correspondant, et j'étais le seul correspondant sur place de médias français, donc j'avais pu le suivre, le rencontrer, lui poser des questions, il était à l'époque vice-président, donc ça c'est des moments un peu forts, parce qu'on se dit, bon... Lui, je suis insignifiant pour lui, mais par contre, eh bien, c'est important de porter ce qu'il vient dire, porter sa parole. Parmi les événements marquants, il y en a plusieurs, notamment au Pakistan. Alors souvent, malheureusement, c'est des faits de violence, mais par exemple, je me souviens d'être arrivé un lundi de Pâques à Lahore, c'était à 3-4 heures de route d'Islamabad. Un attentat venait de faire à peu près entre 90 et 110 morts, notamment des enfants, dans un parc juste à côté d'une église. Et donc, j'étais arrivé sur place, pareil, parmi les premiers un peu journalistes étrangers, certainement le premier journaliste étranger, mais donc c'est des moments un peu forts parce qu'on voit les choses qui sont un peu difficiles, oui. Ensuite on va dans les hôpitaux, on rencontre les victimes, on fait des choses comme ça. Voilà, il y a des moments de qui marquent, et puis il y a par exemple aussi, juste 2 mois après, un camion de super carburant qui se renverse, les gens ils vont pour se servir avec des louches, des seaux, des pelles, etc. Et hop, un type fumé, on l'a vu après sur les vidéos qu'on a retrouvées après, il fumait au milieu de tout ça avec les pieds dans l'eau. Et là, il y a eu immédiatement 220 morts et on estime à 450 le nombre de morts ensuite. Donc c'est des petits moments qui marquent parce qu'après, le rapport à la vie n'est pas le même. Hein.
Alors, vous arrivez dans le Nord et là, nouveau paysage, hein, si je peux dire. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné ou surpris en arrivant dans notre région des Hauts-de-France ?
Alors, ça va faire très cliché, mais la question de l'accueil, elle n'est pas surfaite, elle n'est pas survendue, elle n'est pas faite pour attirer les touristes ou les badauds. Elle est réelle. Par exemple, très concrètement, avant même de mettre les pieds ici, quand on choisissait le logement avec mon épouse, on visitait en visio. Et là, je vois ce jardin avec ses grillages là, de chaque côté. Et je dis à l'agente immobilière, mais est-ce que c'est possible de faire quelque chose avec ces grillages, de les remplacer par des petits murets? Elle retourne, elle me dit, monsieur, ici, dans la région, on ouvre les grillages, on fait tomber les murs. Et en fait, c'était assez vrai. Il y a assez ça. On discute facilement, on va facilement à la rencontre de l'autre. Il n'y a pas cette... alors, elle existe certainement, mais il n'y a pas cette prétention d'emblée. Elle vient peut-être après, mais le premier contact est extraordinaire.
Je retiens votre phrase. On fait tomber les murs dans le Nord. C'est bien, ça, comme définition de la relation dans notre région. Alors, j'ai envie de vous demander aussi, puisque les métiers de l'information évoluent considérablement depuis ces 5-6 dernières années, qu'est-ce qui est en train de fondamentalement changer à vos yeux et qui sans doute va changer aux oreilles de nos auditeurs dans ce paysage médiatique, radiophonique?
Alors il y a une chose en France, en tout cas je pense, qui est en train de changer. Moi je m'en suis rendu compte entre le moment où je suis parti et je suis revenu, c'est que l'offre n'est plus la même. On n'est plus égaux par rapport à l'offre. On choisit désormais. Avant, on subissait. On est dans sa voiture, on écoute la radio, etc. Ça nous tombe dessus. Maintenant, on choisit. On est acteur. On prend son téléphone. On choisit ce qu'on veut écouter. On choisit où on veut aller. Et donc, il y a ce risque, évidemment, de pseudo-communautarisme un peu à la mode des États-Unis où chacun, il y a Fox News pour ceci. Mais il y a aussi des médias qui essayent de se mettre au-dessus. Voilà, dont je pense RCF fait partie. Et puis, il y a aussi cette volonté de... Les enfants, maintenant, ont ce qu'on appelle l'éducation aux médias dans les écoles. Et on leur apprend surtout à ne pas s'enfermer, à ne pas aller écouter quelque chose parce que ça va dans le sens de ma pensée. Au contraire, ça va dans le sens de ta pensée, c'est bien, mais va voir ailleurs ce qu'il en est. Et donc, un des risques, à mon avis, des médias de demain, c'est justement de se renfermer, de faire des communautés d'auditeurs, des communautés de téléspectateurs, des communautés de lecteurs, où on serait les uns à côté des autres, sans pont. On n'y est pas encore, mais c'est ce qui m'effraie un peu. Voilà.
Merci Michel pour cette introduction à vous, puisque l'objectif de l'émission, c'est de mieux faire connaissance avec vous, au-delà de votre fonction de rédacteur en chef. Alors je vous propose maintenant de vous tourner vers cette boîte à questions et puis d'en tirer une.
Est-ce que je peux dire une chose que j'ai découverte en rentrant dans ce studio à propos de cette fameuse boîte à questions? Eh bien, ce que je vais vous dire, c'est que je suis très étonné parce qu'il y a beaucoup de questions. Il n'y en a pas juste une ou deux, donc j'imagine que les invités, les uns après les autres, ont dû faire différemment, mais voilà. Il y a beaucoup de questions.
Voilà, bah écoutez, vous allez en trouver une qui va... Vous allez être choisi par cette question.
Alors, je prends celle-ci là-bas. À votre mort, quelle épitaphe souhaiteriez-vous inscrire sur votre tombe? C'est fou parce que je l'ai déjà entendu dans des émissions que j'ai entendues, alors qu'il y a tellement de questions sur... C'est difficile comme... Voilà. Sans regret.
Sans regret.
Sans regret. Voilà.
Sans regret.
Sans regret parce que j'espère que c'est ce qui nous motive aussi. Je suis pas le seul. C'est de vivre aussi notre vie sans regret.
Et puis ne pas avoir des regrets peut-être arriver à ce terme de la vie.
C'est ça. Après, je sais pas si ceux et celles qui se rendront sur ma tombe apprécieront le sans regret, mais c'est pas grave. Je l'aurais dit.
Bon. Allez, on va en prendre une autre pour revenir à la vie.
Allez, on va tenter. Alors. Quelle est votre occupation préférée?
Ah bah voilà.
mon occupation préférée. Si vous saviez ce que c'est en ce moment mon occupation préférée, vous me trouveriez assez étrange. C'est de passer mon temps dans le jardin, figurez-vous. De tailler les rosiers, de tailler les arbres. Alors maintenant, c'est plus la saison des tailles, mais c'est d'y aller, de se poser avec une chaise et puis de regarder ce qui pousse, ce qui avance, ce qu'il faut corriger. Il y a aussi une particularité, pareil, de la région des Hauts-de-France. Je pense que celles et ceux qui nous écoutent peut-être l'ont déjà vu, c'est qu'il y a des perruches en liberté dans la région.
Oui.
Il y en a à peu près.
Oui, oui, oui. C'est terrible d'ailleurs. Hein. Voilà. Ça fait beaucoup de dégâts.
Mais alors, ce qui est fou, c'est qu'il y en a au moins 2-3 couples qui viennent tous les jours dans mon jardin au même endroit. Et effectivement, ça fait des dégâts, ça fait fuir les autres. Mais quand on regarde juste d'un point de vue spectateur, c'est tout de même très très beau. Et juste l'image que ça renvoie est extraordinaire. Donc bref, si on peut même ici, même en ville, prendre son temps de regarder un peu les choses qui vont doucement, les choses qui poussent doucement, ça, c'est ce que j'apprécie pas mal.
Vous y trouvez un temps de respiration après
exactement
après avoir manipuler l'information dans tous les sens,
ouais,
vous trouvez un temps de respiration.
Et puis, c'est fou à dire, mais de perte de temps, je ne sais pas si on arrive à perdre. Moi, souvent, j'estime que c'est du temps perdu, mais de temps en temps, du temps perdu, ça fait du bien, parce que voilà, on dort trop.
Perdre son temps.
Voilà, c'est ça.
Alors justement, on va se donner un petit temps de pause, hein, puisque là, je vois que vous le désirez ardemment, et vous êtes venu avec un morceau musical. Alors, quel est-il, ce morceau musical ?
Alors, il n'est pas très original pour les types de mon âge.
on ne dira pas l'âge.
Voilà, c'est ça, mais parce que, et en plus, mais il se trouve que c'est un groupe que je vais voir en concert à Lille, mais ça s'appelle L'Aventurier d'Indochine. Pourquoi? Simplement parce que Indochine et L'Aventurier, c'était à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était avant tous les petits smartphones, les choses comme ça. Et Bob Moran, il y avait la figure, il y avait la bande dessinée, ça nous faisait un peu rêver, ça nous ouvrait sur les horizons. C'était un peu l'Indiana Jones version BD. Ben voilà,
Bob,
c'est
Moran,
aussi, c'est aussi ma jeunesse, quoi.
Et c'est aussi mon fils qui était fan.
De la question, Patrice Rouère.
Voilà, j'ai le plaisir de faire le tour de la question avec Michel Picard, qui est notre rédacteur en chef de RCF Hauts-de-France. Et c'est un moment très, très gai, très vif, plein d'énergie, hein, avec vous.
Merci,
Michel,
de me faire cette place.
Alors, on va continuer. Je vois que vous avez un grand plaisir à tirer des questions. Donc,
plonger ma main dans la boîte à questions.
Voilà.
Et prendre la prochaine.
Allez-y. Et puis, pour une fois, c'est vous qui répondez aux questions et c'est pas vos invités.
et ce que je ne suis pas habitué à faire. Vous êtes plutôt lefto ou leftard? Ah, bah ça. Alors, très prosaïquement et très concrètement, je suis plutôt lefto parce que peut-être passé un certain âge, eh bien, dès que le soleil se pointe, le corps, l'organisme se réveille aussi et du coup, je me lève assez tôt. Et en plus, j'ai pas mal d'enfants à la maison, notamment, enfin, il n'y a pas du très bas âge, mais il y en a quand même du primaire. On a quatre enfants à la maison.
Quatre enfants, ah oui.
C'est ça. Oui. Dont la plus petite est encore à l'école primaire. Enfin, les deux derniers sont au primaire et donc il faut bien être...
Ils se réveillent tôt.
Et puis il faut bien les aider un peu quand même à préparer le petit-déj, etc. Et à vérifier que tout se passe bien. Donc, c'est plutôt lève-tôt. Et j'ai rarement été lève-tard. J'ai fait très longtemps les matinales donc sur la radio RCF, où là, je me levais très, très tôt. Et je pense à tout.
C'est 5 heures.
Oh oui, même c'était... Il fallait arriver quasiment à 5 heures.
Ah, oui.
Donc, c'était vraiment tôt. Et je pense à beaucoup de matinaliers ou de ces gens qui sont obligés pour le travail d'arriver très tôt. Je me souviens que je me couchais à 14-15 heures pour une petite sieste. Et je me réveillais sans savoir si c'était un steak ou un café qu'il me fallait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit-là. Au bout d'un moment, ça fait aussi du bien de remettre le corps en adéquation avec un peu le rythme naturel du soleil.
On dit que l'avenir appartient aux gens qui savent tôt.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, vous êtes plein d'avenir.
Ah, bah, j'espère, il me reste encore quelques années sous le coude.
Alors allons-y, replongeons la main.
Allez, on plonge la main dans la boîte à questions. Quel a été le déclic ou le clic qui vous a conduit à ce que vous êtes devenu dans votre engagement ou votre vie professionnelle?
Ah, intéressant.
Ah, c'est intéressant. Vous voulez que je fasse des confidences?
Oui, en quelques mots. Hein.
Oui, en quelques mots, les choses qu'on dit rarement. J'étais déjà... Donc, moi, je suis parti faire ma coopération. À l'époque, il n'y avait pas le service militaire. Enfin, c'était le service militaire. Donc, je suis parti 2 ans en Tunisie. Et dernière semaine, je dis au revoir à tout le monde. Et quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je ne sais pas. J'aimerais bien travailler dans une radio chrétienne, etc. Et une religieuse me donne un numéro de téléphone, me dit, ça c'est mon frère, appelle-le quand tu seras en France. Je suis rentré en France, j'ai appelé, je suis tombé sur le père Payen qui est le fondateur de RCF à Lyon et qui m'a dit, écoute, on ne peut rien te promettre, mais viens faire un tour chez nous et puis on verra ce qu'il en est. Et ça a été un peu le
début.
Exactement. Donc c'est pas forcément du piston parce qu'au bout d'un moment on s'en débarrasse des gens s'ils sont pas à leur place. Mais ça a été le petit coup de pouce, le petit déclic. Voilà.
On peut dire que vous avez été appelé.
Ou j'ai saisi ma chance, c'est ça. C'est ça. Il y a un petit côté savoir saisir sa chance.
Oui.
Exactement.
Oui, c'est bien. Et alors justement, cette sœur a été un peu à l'origine de votre carrière professionnelle. J'ai envie de vous demander. Vous lisez beaucoup aussi, hein, comme beaucoup de journalistes. Hein, vous êtes curieux, vous informez. Vous avez certainement lu beaucoup de livres. Quel est ce livre qui vous a peut-être le plus marqué ou inspiré dans votre vie?
Alors, quand vous m'avez demandé un peu de préparer, de penser à ce livre, j'en avais plusieurs, j'en avais plein. Et puis, j'aime beaucoup, moi, avaler les Ken Follett quand ils sortent, vous savez, les cathédrales. Bref, c'est des bouquins qui se lisent non-stop en 2 jours. Mais en fait, je me suis replongé récemment. Alors, j'avais pas pensé, mais dans Dostoïevski, l'idiot, là, de Dostoïevski avec sa figure très christique. Et je me suis dit que Dostoïevski, en ce moment, avec ce qui se passe en Russie, n'importe quel de ses bouquins, l'ouvrir, même lire quelques pages, Dostoïevski, la Russie, évidemment, il y a un siècle et demi, mais elle explique, elle nous fait comprendre ce qui se passe aujourd'hui quand on parle du tsar à Moscou, quand on parle de Poutine au-dessus de la mêlée, etc. Il y a cet esprit russe, ces siècles, etc. Et je trouve que c'est un bon point d'entrée dans la lecture de l'actualité d'aujourd'hui, quoi, Dostoïevski.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, remettez votre main dans cette boîte très profonde.
Je
avec
vais aller très très loin, très très loin. Qu'est-ce que vous voudriez faire au cours de la prochaine année que vous n'avez jamais fait auparavant?
Oh là là.
Si vous saviez, il y a tellement de choses à faire.
Oui.
Non, là, il faut que je retrouve des activités dans la région que je connais encore assez peu. Par exemple, il faut absolument que je trouve un bon club de plongée où je puisse aller, que je trouve un endroit où je puisse aller à la pêche. Mais cela dit, ce que je vais faire dans la prochaine année, c'est faire ce que je fais depuis 20 ans, c'est découvrir les lieux de tourisme locaux. Aller, parce qu'en fait, je me rends compte que là, à 1 heure par-ci, 1 heure et demie par-là, il y a des lieux extraordinaires et il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour trouver des choses intéressantes. La région nous offre des merveilles et donc je pense que dans l'année qui vient, ce sera pas un effort, mais ce sera l'activité, ce sera aussi de trouver ces lieux et d'y aller, d'y passer du temps.
Non seulement pour RCF, mais aussi pour les week-ends, vous allez pouvoir faire...
Mais c'est assez original que vous disiez pour RCF, parce qu'en fait, je suis parti de ces gens, mais il y en a beaucoup qui... En fait, c'est 24 sur 24 le métier, c'est-à-dire que même si un week-end, eh bien, on va suivre un concert, voir un spectacle, voir... forcément, ça a des retombées sur le travail au quotidien. Mmh. Et si j'ai pas le micro dans le week-end, je l'aurai dans la semaine. Enfin, voilà. Mmh. C'est lié, quoi.
Alors, Michel Picard, en tant que rédacteur en chef, vous connaissez très bien notre radio, une radio chrétienne. Alors, j'ai envie de vous demander, comme je pose à tous nos invités, pour vous, qui est Dieu ?
Pour moi, Dieu, c'est celui qui nous permet de nous ouvrir à l'autre. C'est-à-dire que c'est, vous avez ce petit élan dans la rue, ce petit élan qui fait que je vais y aller, je vais pas y aller, parler à cet autre. Ce petit élan d'ouverture, ça, c'est si je le mets de manière générale. Alors après, pour moi, il est amour et il n'est qu'amour, rien de plus que l'amour. Hein. Tout ce qui est au-delà, c'est pas Dieu. Mais je le définirais comme ça, moi, dans ma vie, en tout cas. C'est ce petit plus qui fait que, tiens, ben voilà, je suis allé vers l'autre alors que j'avais pas vraiment de raison d'y aller. J'hésitais, etc. C'est ce trait d'union qui me fait aller vers l'autre et découvrir sa personne, sa culture et son être.
Eh ben, à la radio, vous êtes bien placé.
C'est ce qu'on fait en permanence, en fait, c'est ça.
Et ouais. Alors, si vous vous trouviez en face de lui, en face à face, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Oh ben, je commencerai, j'imagine, comme bon nombre, à dire pardon. Et puis après à dire merci, quoi, parce que cet élan de vie, cette étincelle de vie qu'il a semée, elle est quand même extraordinaire. Elle nous permet de faire des choses magnifiques qu'on gâche ou qu'on gâche pas, hein, avec lesquelles on se comporte parfois beaucoup trop prétentieusement. On pense en être d'ailleurs le maître de sa vie et du monde, mais juste lui dire merci pour ce qu'il nous aura offert, quoi, ce qu'il m'aura offert.
Alors, la radio RCF, c'est aussi la joie qui se partage. Mmh. Hein, c'est notre slogan, notre baseline, comme on dit, hein, d'un point de vue marketing. Alors, j'ai envie de vous demander, Michel Picard, c'est quoi votre dernière joie là sur ces dernières semaines, qu'elle soit petite ou grande, hein, peu importe, mais voilà, votre dernière joie.
Oh, ce sont des joies en ce moment toutes simples de père de famille, si vous voulez savoir, parce que de se retrouver en famille pour un dîner, pour un petit déjeuner, et puis on vient seulement de finir des travaux entamés il y a 7-8 mois, donc juste être capable de s'asseoir autour d'une même table en famille et de passer un moment, et puis d'avoir des joies simples, que chacun partage sa journée, et que surtout chaque membre soit capable d'écouter, moi c'est ma plus grande joie.
Et les repas et souvent ces moments-là, des moments c'est très ça, porteurs
de
joie.
Mais je sais pas si vous en avez de mon âge, mais en ce moment c'est très difficile de faire décrocher les ados de leur smartphone et donc juste au moins le temps des repas, au moins le temps des moments.
Ils ont le droit de venir à table leur smartphone.
Bien sûr que non, mais forcément il y a toujours l'excuse qui fait que voilà, il faut absolument, ça vient de sonner, etc. C'est un grand moment de joie quand ils s'en détachent pour passer du temps avec nous, mais c'est aussi, je pense, un grand moment de défi pour faire en sorte que ces enfants décrochent enfin de leur téléphone ou alors les utilisent pour des choses très intelligentes, ce qui n'est pas forcément généralement le cas, quoi.
Alors, dans votre métier, vous êtes amené à regarder l'avenir, avec tout ce qui se passe, l'actualité, vos invités. Qu'est-ce qui vous fait espérer quand vous regardez l'avenir ? Quels seraient vos motifs d'espérance ?
Il y a une chose extraordinaire et folle, c'est que au-delà des invités que je reçois, mais chaque personne que je rencontre, je suis persuadé qu'elle a quelque chose à m'apprendre. Mais le gamin de 17 ans ou 16 ans qui vient, vous êtes journaliste, qui pose des questions, mais je sais que 10 minutes après, j'aurais appris quelque chose de lui. Le plus ancien, je veux dire, j'apprends de chaque personne que je croise. Et ça, alors, c'est très personnel, c'est très égoïste, mais ça, c'est une grande joie. Ça me permet d'avancer et de savoir que, même ce type que je peux a priori pas voir, je vais passer un peu de temps avec lui, puis après je me dis, j'ai appris tellement de choses.
Mais qu'est-ce qui vous fait espérer quand vous regardez devant ?
C'est que il y a un dynamisme de folie, et puis toutes les jeunes générations, tout ce que nous on n'aura pas réussi à faire, ils ont des génies qui sont capables de mettre en œuvre et commencer à développer pour justement nous offrir un monde meilleur, ce qui peut paraître un peu rêveur, mais moi je suis persuadé que nos jeunes générations sont tellement fortes qu'elles vont mettre en œuvre ce qu'il faut pour qu'on passe le pas.
Voilà, vous avez une grande confiance dans ces nouvelles générations, dans la génération de vos enfants et de nos enfants. Eh bien, merci beaucoup Michel Picard, vous êtes notre rédacteur en chef. Merci beaucoup d'avoir, pour une fois, répondu à des questions et non pas posé des questions.
Ce qui, je dois le dire, n'est pas très évident de répondre à des questions, je préfère les poser.
Ça a été pour vous.
Merci Patrice.
Finalement, vous allez très vite retourner dans votre rôle de journaliste.
mais vous faites preuve de beaucoup de bienveillance et ça, je vous en remercie parce que je n'aurais pas été aussi sympa que vous. Merci Patrice, en tout cas.